que Dieu est capable de le rendre fidèle et d'accomplir son œuvre. Ben, c'est l'histoire de ces 10 ans. L'église, le phare, c'est simplement la suite du travail qui avait été commencé en 1982 par un missionnaire venu de la mission team, Paul Davis, qui s'est associé d'un pasteur français, Daniel Bordeaux, pour implanter une église à Vigneux-sur-Seine. Et l'histoire veut que cette église a vécu des chaos, des difficultés, comme toute famille, comme nous en avons vécu aussi un peu dans les 10 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir la fidélité de Dieu. On peut toujours voir la fidélité des hommes, mais sans la fidélité de Dieu, il ne se passerait rien. Et pour la petite anecdote, peut-être ça vous le savez pas, mais j'avais été proposé pasteur à cette église en 1989, ceux qui étaient là. Et parce que Dieu a pensé que c'était pas le bon timing, je ne suis pas venu à Vigneux-sur-Seine en 1989. Mais Dieu a voulu que j'y vienne en 2006, alors qu'il est venu juste me chercher, interpeller à 6000 km d'ici. L'église, suite à des problèmes, à des difficultés, l'église s'était éparpillée, disant que les membres ne se réunissaient plus dans ce bâtiment. Ce bâtiment était donc vide. Et avant que je ne monte dans l'avion pour un voyage international, il avait été proposé de vendre ce bâtiment, puisqu'il n'y avait plus de réunion et que l'église ne s'y réunissait pas. Et lors de mon temps aux États-Unis pour une conférence, et alors que je lisais l'écriture, je suis tombé sur le texte qui disait « Ne décroissez pas, ne diminuez pas, mais au contraire augmentez. Cherchez le bien de la ville. » Et pour une raison que je ne comprends pas, enfin si je la comprends, mais que je ne savais pas, de pasteur à Brétigny-sur-Orge, Dieu a fait de moi pasteur à Vincennes. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et pourquoi nous avons voulu célébrer ces 10 ans? Parce que toutes les choses que Dieu nous a données, le plan, l'organisation, aujourd'hui, nous voyons que tout ce qui avait été mis sur le papier s'est réalisé, non pas parce que nous avons été forts, parce que Isabelle était là, parce que José et Jean et Julia Gonzalez, ils devraient être avec nous peut-être cet après-midi, parce que Leslie Fiquette a été là, parce que Stéphane G a été là. Mais ce n'étaient pas des gens extraordinaires. C'était juste des gens ordinaires qui croyaient à la fidélité de Dieu. Et que Dieu ne voulait pas que le lampion s'éteigne. Et donc, à la manière des prophètes, nous avons travaillé pour que le peuple revienne, pour que de nouveau rencontre Jésus-Christ. Et au cours des années, nous avons pu voir, nous avons pu être témoins de la grâce et de la fidélité de Dieu. Mais si on ne prend pas le temps de s'arrêter, de compter, de dire au Seigneur, bon anniversaire Seigneur, le monde le fait, n'est-ce pas? Mais nous, est-ce qu'on est, on n'est pas les comptables des œuvres de Dieu? Nous ne sommes que des serviteurs. Et au cours de toutes ces années, nous avons profité les uns les autres d'équipes, d'équipiers fidèles qui ont payé le prix fort, qui ont donné pour qu'aujourd'hui nous célébrions 10 ans, 10 ans de fidélité, mais qui n'est que le complément de ce que Dieu avait commencé en 1982 par Paul Davis et par les autres. Et certains sont là depuis bien plus longtemps que nous. Alors ce matin, on veut frustrer personne, mais juste se concentrer sur cette fidélité. Comment Dieu est capable de faire avec un homme ordinaire qui se met à son écoute. ce que Dieu veut et son plan. Et ce matin, le titre, c'est un Dieu fidèle. Louez Dieu pour sa fidélité. Si tu veux avancer, parce que je n'ai pas la même slide que toi, voilà. Louez Dieu pour sa fidélité. Les attributs de Dieu sont l'objet des louanges des croyants. Son amour, sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, oh, on en parle de sa puissance, sont souvent mentionnés dans nos prières, dans nos manifestations. Mais sa fidélité semble l'être beaucoup moins. Dans l'Écriture, il n'en est pas tout à fait ainsi. Si tu veux passer la slide. Monsieur Moïse, vous savez, qui a dialogué avec son Dieu pour ne pas aller là où Dieu voulait qu'il aille, a dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, « Rendre gloire à notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. » Et il a dû voir comment Dieu était fidèle. Il a vu comment Dieu a pu le prendre là au buisson, l'emmener, guider son pays. Néhémie a pu dire dans le chapitre 9, au verset 33, « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. » Est-ce que nous croyons que Dieu est juste dans tout ce qui nous arrive? On dit « Amen » quand tout va bien. Mais le jour où ça va mal, on dit « Est-ce que Dieu est vraiment fidèle ?» Il a dû oublier un morceau de sa promesse. Mais j'entends bien ce que dit mon frère. Ésaïe, le prophète, il a dit « L'Éternel est fidèle !» L'Éternel est fidèle. La maigre fidélité que nous avons, mes amis, comparée à la fidélité de Dieu, elle est toute petite. Tu veux changer ? Jérémie a dit « Oh, que ta fidélité est grande !» Le psalmiste, Ethan, il a dit « Ma bouche fera connaître ta fidélité !» Ta fidélité, le dit deux fois, est célébrée dans l'Assemblée des Saints, comme ce matin. Ta fidélité, Seigneur. Sans cette fidélité, je ne peux pas tenir. Sans ta fidélité, je ne pourrais même pas faire un tiers, un quart, un dixième de ce que tu me demandes. Parce que c'est toi qui m'appelles. Encore, le roi David a dit dans le psaume 138 au verset 2, « Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. » Sa fidélité dure à toujours. Psaume 117. La parole de l'Éternel est droite toutes ses œuvres. Vous voyez, ça revient souvent, toutes. Le mot tout est toutes. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. L'apôtre Paul, celui qui vous a appelé à la communion de son Fils est fidèle. Et il rajoute à la fin du verset, c'est lui qui le fera. On parle de la fidélité. Aujourd'hui, on parle de la fidélité dans le couple. On parle de la fidélité au travail. On parle de la fidélité dans nos engagements. Mais si on réfléchit quelques instants sur ce qu'est la fidélité de Dieu, c'est son attitude qui consiste à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. Elle s'exprime par son attachement, sa constance et sa persévérance. Remplir ses engagements. On peut toujours remplir nos engagements, n'est-ce pas? Et c'est marrant, nous, messieurs, hein, quand on est devant le maire et que le maire, il dit « Promettez-vous, engagez-vous à aimer votre femme jusqu'à la mort, naturelle. » Il devrait préciser de temps en temps. Hein. Naturel, vous n'avez pas à dégager. Et puis combien, quand la difficulté est là, quand notre femme ne représente plus la photo d'origine, dis chérie, c'était toi ça? Et alors elle nous montre une photo, elle dit oui, ça c'était toi. On a vu hier, il y a 10 ans là, une photo du pasteur. Hein. Et de certains d'entre vous d'ailleurs, c'est amusant à voir. De voir ce que Dieu est capable de faire. On est tellement vite prêt à renoncer à notre engagement. Mais Dieu, lui, Il tient ses promesses. Et il tient ses, on verra tout à l'heure, ses promesses. Quand Dieu a dit, je serai avec toi, il est hein, avec nous. Quand Dieu a dit, je te fortifierai, il nous fortifie. Quand Dieu a dit, je vous équiperai, il nous équipe. C'est ça la fidélité de Dieu. C'est l'attitude qui consiste à tenir, à s'attacher à sa constance. Il ne change pas. Regardez ce que dit le psalmiste. Sa bonté atteint jusqu'aux cieux, sa fidélité jusqu'aux nues. Vous savez que pour les Juifs, il y a trois ciels. Il y a le ciel qui nous entoure, il y a l'espace au-dessus, et après il y a le ciel de Dieu. Et c'est intéressant que là, il dit ta fidélité va jusque là-haut. Elle dépasse le plafond, Seigneur. Elle dépasse le plafond. Sa fidélité environne le Seigneur. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Les œuvres de ses mains sont fidèles. Est-ce que c'est votre Dieu? Est-ce que c'est notre Dieu ici à Vigneux? Est-ce que c'est ce Dieu qui nous rend capables? Est-ce que c'est ce Dieu qui est un bouclier? Est-ce que c'est un Dieu qui, dans ses œuvres, nous montre qu'il est fidèle? C'est le témoignage que nous rendons. C'est le témoignage que nous pouvons voir. C'est Dieu qui installe l'Église. C'est Dieu qui est l'architecte. C'est Dieu qui est le constructeur. C'est Dieu qui en est la tête. Nous ne sommes que des serviteurs. Et on essaye d'obéir tout simplement à ce que Dieu nous demande. Mais quand on regarde la fidélité de Dieu, on ne peut que de s'incliner. De dire, Seigneur, t'es tellement grand. C'est tellement bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de fidélité, on est obligé d'y accompagner avec le mot bonté. On ne peut pas être fidèle et pas bon. Le psaume 40, verset 12, nous dit « Ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. » Ta bonté et ta fidélité se rencontrent, dit le psaume 85. Bonté et fidélité sont devant ta face. Il est beau d'annoncer au matin ta bonté et ta fidélité, dit le psaume 92. La bonté de Dieu, ce n'est pas la charité. Vous savez que nous, on a changé un peu les mots. La charité, la bonté, c'est voilà, devant, c'est l'aumône qu'on fait. On regarde, on se dit, Seigneur, il reste bien une pièce de 10 centimes, là. Je vais te la donner, mais c'est par charité. Le Seigneur, il dit, et t'as pas ton portefeuille avec toi? Si, mais là, j'ai 10 centimes. La bonté de Dieu, c'est pas le peu. C'est pas ce qui est petit. Même si ça rentre par la petite porte. En 2005, j'ai été invité à faire un voyage au Bénin pour rencontrer 250 pasteurs. Et ce qui était intéressant, c'est que je n'avais pas écrit aux amis qui m'invitaient pour savoir qui allait payer quoi. Et donc, quand j'arrive au Bénin, en descendant de l'avion, je me fais, ouais, à propos, je vais loger où, je vais être quoi, je ne savais pas trop. Alors, on m'avait dit d'aller au siège de la mission. J'y vais. J'arrive, je dis, voilà, je suis le pasteur Hélier. Oui. Donc... écoutez, on ne sait pas exactement où vous allez aller, ce que vous allez faire, on sait exactement quel pasteur vous allez rencontrer. Ça, c'est fait. Par contre, pour votre logement, si vous voulez, il y a un hôtel pas loin. Et là, je me dis, les frères, bienvenue. Et puis, j'allais sortir du bureau, d'un seul coup, il me dit, ah, à propos, il y a quelqu'un qui est passé ce matin, il m'a laissé une enveloppe. J'ai dit, il a laissé une enveloppe? Ouais, il a laissé une enveloppe. J'ai dit, c'est qui? Toi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais il a laissé une enveloppe. Il a dit, il y a le pasteur Hélier qui va venir, donnez-lui ça. Mes amis, dans l'enveloppe, il y avait tous mes frais de toute la semaine. Ça a couvert tous les frais. La personne ne pouvait pas savoir à l'avance. Mais Dieu savait. Quand Dieu envoie, Dieu écoute. Quand Dieu nous appelle, il dit à ses disciples dans Matthieu 6, 33, qui s'inquiète, il dit, Jean de peu de foi. De quoi vous inquiétez-vous? Il ne faut pas partir à l'aventure, mais la chose extraordinaire de savoir, c'est que quand on est dans la volonté de Dieu, alors Dieu remplit. On va lire Exode 34, versets 5 à 7. C'est Moïse, au moment d'aller vers Dieu. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. Waouh ! Là, il y aurait à sortir du texte. Hein ? Un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour, qui pardonne. Mais, vous avez vu le texte, il dit, qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. On a besoin de savoir que notre Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qu'il pardonne. Ma question souvent que je me pose, est-ce que les gens voient ça chez moi ? C'est là la question. On dit on a un Dieu, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, fidèle. Bon, je suis pas vraiment à son image, moi. J'ai dû venir après. La fidélité de Dieu s'imprègne sur nous. C'est ce qu'on appelle le processus de sanctification, petit à petit. Hein, l'apôtre Paul nous appelle à nous débarrasser, à nous dépouiller de choses du monde pour laisser paraître Christ. Est-ce que nous avons ce Dieu, mes amis ? Est-ce que c'est ce Dieu qui a tellement de miséricorde, tellement de compassion, qu'il vient nous chercher là où on est, et qu'il n'a pas permis que la lampe s'éteigne dans cette ville. Elle n'était pas éteinte puisqu'il y avait des chrétiens. Mais ce bâtiment était vide et la lumière ne brillait plus. Un Dieu qui est riche en bonté, en fidélité. Il y a un sentiment qu'on a du mal à passer dans nos lectures en français, dans la Bible. C'est le phénomène de continuité. La continuité dans ce qu'il dit et dans ce qu'il est. Son nom, hein, si on écrit... Avance un petit peu, s'il te plaît, voilà. Si on écrit son nom, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est pas prononçable. Parce que les Juifs ne pouvaient pas considérer Dieu et ne pouvaient pas l'appeler Dieu. Alors il y avait un nom imprononçable. Respect. Et on en a fait l'Éternel, Yahweh, et Seigneur. Éternel Seigneur, celui qui conduit nos vies. Il est sauveur et Seigneur. La question, c'est puisqu'il est tellement fidèle, puisqu'il a prouvé, est-ce que dans nos vies, il est toujours ce nom imprononçable, cette personne inatteignable au troisième ciel, il est loin. On raconte l'histoire de cet homme religieux qui a pris l'avion et puis qui... Vous savez, dans l'avion, on affiche, ceux qui prennent l'avion, on affiche, on dit, voilà, on est à 10 000 mètres, on est à 12 000 mètres. Et alors, arrivé à une certaine altitude, les hôtesses passent, et puis on fera boire. Et cet homme religieux de dire, oui, moi, je veux bien un petit whisky. On lui sert un petit whisky. Et puis l'avion continue de grimper. Et puis les hôtesses repassent. Et puis ils disent, bah, oui, un autre whisky. Très bien. Et puis là, finalement... Le commandant de bord dit, voilà, nous avons enfin atteint notre altitude maximum, nous sommes maintenant à 12 000 pieds. Donc voilà. Et là, les hôtesses passent, elles disent, un autre whisky. Ah non, 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 là, un verre d'eau, parce qu'à cette altitude, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Mes amis, Dieu, il n'est pas à 12 000 pieds. Dieu, il est là. Il n'y a pas besoin d'être à l'étage pour le rencontrer. Vous savez quelque chose d'extraordinaire ? C'est que ce n'est pas nous qui sommes allés rencontrer Dieu. Et c'est Dieu qui est venu sur la terre. Il est venu là, à Vigneux-sur-Seine. Il est venu à Plessis-Pâté. Il est venu à Montgeron. Il est venu à Crône. Il est venu à Ivry. Dans chaque ville et chaque village, Dieu est venu pour porter l'amour. Et ça vaut la peine, non ? De regarder ce Dieu fidèle et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es capable de faire ? Est-ce que tu peux faire le bien de cette ville? Et c'est ce qu'on veut célébrer pendant ce week-end. L'Écriture nous parle de continuité. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui ne change pas. » Celui qui ne change pas. Oh, nous, on change, hein ? Les photos d'hier, maintenant, on est mal à l'aise avec. On regarde, c'était moi, ça. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, le prophète, j'appelle le prophète italien Malachi, il dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » La Bible nous dit que nous étions tous la mort à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de Madame Ève qui a proposé à son mari. Ce n'est pas Madame Ève. Moi, je dis à chaque fois qu'on dit « Ah, parce que sinon, je vais voir les dames qui vont m'attendre à la sortie. » Mais Monsieur Adam, il avait été à la pêche le jour où Madame Ève, elle était tentée. Et quand Madame Ève, elle lui a dit « Eh, vas-y, c'est interdit, mais tu vas voir, c'est pas mal. » Il a pris. À cause de ça, nous étions séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, ne veut pas que nous restions séparés, ne veut pas qu'une église reste fermée, ne veut pas que la lumière s'éteigne. Il y a continuité. Parce que Dieu n'a pas rejeté son amour. Il a dit que tant que le ciel et la terre ne disparaîtra, sa parole ne disparaîtra pas. Sa promesse sera toujours là. Jusqu'au jour où, comme dans l'arche, la porte se fermera. Jacques écrit, il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre, ni variation. Il n'y a pas de changement. Nous, on change, suivant les âges. L'Épître aux Hébreux, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas, on veut le faire changer, on veut lui faire changer ses idées, on veut inventer, d'un seul coup être inspiré d'une nouvelle révélation. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, lui, ne change pas. Et tous les jours de notre vivant, il tape à la porte et il dit, « Hé, je t'aime. » Même les grands pécheurs. Vous imaginez le grand terroriste, l'apôtre Paul, au point où même les disciples, quand il a voulu les rencontrer, ils ont dit, hey, tu nous l'as déjà fait celle-là. On ne veut pas tous passer à la casserole. Il n'y a que Pierre. Hein. Et Pierre, c'est toujours l'avant-coureur. Hein. Dieu l'a changé. Et Dieu a permis que l'évangile se répande. Et ce grand terroriste, ce Al-Qaïda de l'époque, a pu écrire à des gens qu'il haïssait, à des gens avec qui il avait une grande guerre. Je vous aime de l'amour d'une mère. Wow. Quel changement, non ? C'est ce changement que Dieu veut faire. Dieu est fidèle lui-même. Sa sainteté, sa justice, son amour ne changent pas. Sa sainteté, sa justice, son amour. Si nous sommes infidèles de Timothée, c'est Paul qui dit, hein, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Wow. Car il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est amour. On l'a lu tout à l'heure, il ne tient pas le pécheur pour innocent. On peut toujours provoquer Dieu, n'est-ce pas ? On peut dire, s'il est amour, je peux lui faire des vacheries. Je peux désobéir. Je ne risquerai pas. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Elles sont impénétrables. Elles ne changent pas. Rentrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, rentrer auprès du roi, être introduit auprès du roi. C'est ce que Jésus a fait. Le jour où il a été crucifié, le voile est tombé. Le voile qui nous séparait du lieu saint. Dieu a permis, et à sa résurrection, quel changement, quel changement. Continuité et unité, tout le message biblique de Genèse 1, Apocalypse 22, nous parle de cette continuité. Et nous en sommes témoin. La révélation de Dieu est une continuité. On appelle ça une révélation progressive. Mais une révélation continuelle, progressivement, Dieu nous donne. Parce qu'il y a une continuité, il y a unité du message. 40 écrivains différents écrivent sur le même thème, sur 16 siècles. C'est ça, la vérité de Dieu. Un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change pas, et un Dieu indestructible, ineffaçable. Jean chapitre 10, verset 35 dit: les Écritures ne peuvent pas être anéanties. On a essayé, on a fait brûler les Bibles, on a fait brûler les croyants, on a fermé les portes. Mais l'Évangile continue d'avancer. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24, verset 35. Alors, c'est bien quand on parle de la fidélité de Dieu. Nous, on se met les mains dans les poches et on dit: moi, peinard, j'ai rien à faire. N'est-ce pas? Je n'ai pas de responsabilité. C'est Dieu qui est fidèle, c'est Dieu qui appelle. Nous avons des comptes à rendre. Parce que Dieu est un Dieu saint et juste. Quand Adam a réalisé ce qui s'était passé et qu'il s'est caché, vous n'êtes jamais posé la question: est-ce que Dieu savait où était Adam? Il l'avait dans son GPS, hein? Est-ce qu'il savait ce qui s'était passé?
Oui.
Est-ce qu'il savait pourquoi? Ben regardez bien. La Bible, elle dit ça. Où es-tu, Adam? Qui t'a appris? Est-ce que tu as mangé du fruit défendu? Pourquoi as-tu fait cela? Dieu sait. Mais Dieu veut entendre. Nous avons des comptes à rendre à Dieu, mes amis. Nous serons questionnés, non pas sur notre foi au ciel. Une fois qu'on est enfant de Dieu, on reste enfant de Dieu, mais nous aurons des comptes à rendre. Qu'as-tu fait? Pourquoi? Caïn, Abel. Est-ce que Dieu savait ce qui s'était passé? Alors pourquoi pose-t-il la question à Caïn? Où est ton frère? Ah, Seigneur, tu le sais, hein? Enfin, oui, il est là, mais il parle plus. Le peuple a dû rendre hommage. Nous aurons des comptes à rendre. Et là, quand on découvre la fidélité de Dieu, combien Dieu est fidèle, alors ça nous interpelle, non? De dire: mais si ce Dieu qui est grand et fidèle a fait tellement de choses dans ma vie, qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? On parle d'action de grâce. Alors aujourd'hui, on fait une journée d'action de grâce. Enfin, de pensée de grâce. Est-ce que vous voyez la différence entre une pensée et une action? Ben, tu m'as pas appelé l'autre jour. Ah, oh, mais j'y ai pensé, hein. Ah, mais j'ai pensé de téléphoner. Oui, mais tu l'as pas fait. Et nous, chrétiens, on pense bien qu'on pourrait faire quelque chose pour Dieu. Mais on y pense. Et ça reste là. Vous voyez où j'en viens? Journée d'action de grâce. Là, oui, mais j'y pense. Hein. Oh, ben, en français, j'étais avec vous, les amis. Mais il attend une action de grâce. Voilà. On met la main à la poche. On s'offre. On dit: Seigneur, utilise-moi. Vous savez, le prophète Ésaïe, chapitre 6, quand Dieu a dit: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Il n'a pas dit: où, comment, quel est le salaire, est-ce que j'aurai une augmentation? Il a dit: tu m'as envoyé quelqu'un, Seigneur, écoute, j'arrive, envoie-moi. Mais il ne savait pas où il allait, pas plus qu'Abraham. Et Dieu l'a envoyé. Et vous voyez, l'action de grâce, c'est de se lever et de dire: Seigneur, j'ai rien fait d'autre. Ce jour de novembre 2005. À Iowa. Que de dire quand le Seigneur m'a interpellé: écoute, Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne suis pas un pionnier. Je ne peux pas inventer les choses que je ne sais pas, mais j'ai une chose que je veux faire, Seigneur. C'est compter sur ta fidélité. C'est compter sur ta fidélité. Frères et sœurs, la seule chose qui peut transformer notre Église, qui peut transformer votre vie, c'est que nous comptions sur la fidélité de Dieu, chacun personnellement. Pour que Dieu nous amène pas là où on veut, mais là où il veut. Hier soir, notre frère, il a dit, dans 10 ans, si Dieu nous prête, j'aimerais être là. Il dit, j'aimerais voir d'autres têtes. Parce que ça voudrait dire que Dieu a été fidèle et qu'il a touché des vies. Mais pour ça, Dieu va nous utiliser, n'est-ce pas? Le jugement commencera par la maison de Dieu. On a une responsabilité individuelle et on a une responsabilité en Église. 1 Pierre 4, 17, hein, le jugement commencera par la maison de Dieu, dit l'apôtre Pierre. Dieu nous demandera aussi comment nous avons construit sur lui. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 3, 10, 15. Je viens bientôt, dit Jésus, avec ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ah, c'est le mauvais côté, hein. C'est le côté du contrat qu'on ne veut pas entendre. Il y a le contrat où on donne et on reçoit, et puis il y a le côté où on donne. Mais l'assurance. Il faut que je me dépêche. Sa miséricorde et son pardon se manifestent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Hein. Dans Romains 2, il est marqué, sa grâce est annoncée à Israël, à toutes les nations. Dieu ne fait pas de différence. Alors, mes amis, nous célébrons 10 ans. 10 ans de sa fidélité dans nos vies. La preuve, c'est qu'on est là ce matin. Dans cette première partie, ce matin, je nous ai parlé de la fidélité de Dieu, d'un Dieu qui est fidèle à lui-même, à ce qu'il est. Cet après-midi, on parlera d'un Dieu fidèle à son plan, et d'un Dieu fidèle à ses dons et à son appel. Parce qu'il y a une deuxième partie, et je la garde pour cet après-midi. Nous avons l'occasion de louer notre Dieu pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice, pour son amour, pour son pardon, parce qu'il ne change pas. Alors, frères et sœurs, exprimons-le avec notre cœur, mais aussi avec notre vie, pour que Dieu soit glorifié en son Église.